Louis-Frédéric Rouquette, Le Grand Silence Blanc, chapitre 11, L'homme qui trouva un mammouth. En ce temps-là, vous m'excuserez, je parle comme un évangéliste, mais je ne sais vraiment par quel bout commencer mon histoire. En ce temps-là, c'est une expression fort commode. Cela permet de rassembler ses idées et de chercher ses mots. En ce temps-là, Dan et Jambes, voulez-vous, sire, arranger mon coussin? Là, merci, je suis très fâché. J'emprunterai, s'il vous plaît, votre blague, Sinx. Et Gregory Land écrase avec son pouce, dans la paume de sa main, le tabac qu'il roule ensuite en boule, et place consciencieusement dans sa bouche. Gregory Land, le postier, l'intrépide coureur des bois, est mon hôte depuis déjà 3 semaines. Une chance qu'il a eue de se casser la jambe, non de se casser la jambe, je m'exprime mal, mais de la casser à 1 mille de ma cabane, un mauvais virage pris par ses chiens. Et depuis 3 semaines, je fais le rebouteux et le garde malade. Dire que c'est une double sinécure serait mentir, car Grégory est bien le patient le plus impatient qui soit. Ne parlait-il pas dès le lendemain de repartir? Heureusement qu'une bonne fièvre est intervenue à temps, qu'il a calmé pour quelques jours. Depuis, il est beaucoup mieux et passe son temps à boire mon whisky. Ses souverains prétendent-ils pour les cassures, à chiquer mon tabac et à le fumer lorsqu'il est là de le mâcher. Parfois aussi, il me conte des histoires. Le plus souvent, il fait les 3 choses à la fois. Ainsi, présentement, la bouteille de whisky est à portée de sa main, il mastique sa chique et commence. En ce temps-là, ce sont... non des histoires, mais l'histoire de ces temps héroïques où l'homme était seul, ici, à se battre contre les éléments. Le froid terrible, la faim, la soif, la fatigue, le surmenage, le combat de tous les instants pour mater la nature et essayer de lui ravir sa proie. Pour les exploits de 2 villes rivales grandes comme le demi-quart d'un quartier de Chicago, les Grecs ont persuadé au monde pendant des siècles qu'ils étaient un peuple admirable. Des artistes, des philosophes, des orateurs et des poètes ont chanté leur gloire immortelle. Oui, mais au commencement était Homère. Et 3000 ans ont passé sur la cendre d'Homère, et depuis 3000 ans, Homère respecté et jeune encore de gloire et d'immortalité. Quel Homère dira l'abnégation et le courage, la volonté et l'énergie de ces hommes qui partirent à la conquête de la moderne toison d'or, n'ayant devant eux que des mondes inconnus, des solitudes vierges, se perdant à l'infini dans des milliers de lieues de neige. L'or, qui, dans les villes, coule entre les doigts comme l'eau primitive, ne laisse pas de traces. L'or. Tout ce qui s'achète et tout ce qui se vend. Sait-on ce qu'il a coûté de patience, d'attente et de longue espérance aux mineurs solitaires? Les compagnons d'Ulysse sont changés en pourceaux, avilissement de l'intelligence par la matière. Vous n'avez pas eu de poète pour vous chanter, aventurier de tous les pays, qui vint un matin sur la terre qui paye pour y chercher sinon fortune, du moins l'assurance d'une vie libre, loin des règles étroites de nos civilisations. Aucun artiste n'a gravé nos exploits au temple de mémoire, et vos douleurs et vos joies ne seront à jamais immortelles. Pas de Parthénon pour vous, ni de Panathénée, mais combien plus simples, plus émouvants sont vos tumulus de pierre, qui bosselent, çà et là, les plaines neigeuses, indiquant au passage qu'un homme, dont personne ne saura le nom, dort son dernier sommeil au cœur même du grand silence blanc. Je songe à toutes ces choses, cependant que Grégory prépare une combinaison savante d'alcool dont il prétend avoir seul le secret. Il ferait la fortune d'un marchand de recettes, cet old fellow de Grégory Land. Il connaît 383 manières de fabriquer les cocktails et 120 façons de cuire le maïs. Il sait l'art d'apprêter les peaux blanches et à longs poils des phoques nouveau-nés et les prières pour les morts de toutes les tribus, depuis les Esquimaux Inuits qui campent sur les bords de l'océan glacial jusqu'aux Ingalits, ces Indiens qui, venus des Rockies, vivent à l'est de l'Alaska. Il entretient des relations d'amitié avec les Tenankutchin, qui ont la figure peinte et dont les terrains de chasse suivent le cours de la Tanana. Il déchiffre les totems Sinklit comme un vieil indigène. Il a l'esprit bourré de statistiques d'une précision étonnante. Et ce qui est mieux, Grégory connaît le cœur des hommes. Je pense en moi-même que ce postier est un drôle de corps et, tout en l'écoutant bavarder, je fais trois parts de ma paye. Nuggets, les pépites. Gold dust, les parcelles d'or plat. Et floor gold, l'or fin, la poussière d'or, que je sers précieusement en des petits sacs de cuir. Vous avez une belle paye aujourd'hui. Vous n'avez point perdu votre temps, la jolie breloque que voilà. Et Grégory fait sauter dans sa main ma dernière trouvaille, une pépite grosse comme une amande. Le postier l'examine en connaisseur, entre le pouce et l'index. Puis, délicatement, il la pose sur le bord de la table en disant « Vous en avez là pour 50 $. » Prenez toute votre chance jusqu'au bout, c'est de toute justice. Mais j'avais, je crois, commencé une histoire. Il se recueille et, pour la dixième fois, il répète. En ce temps-là, j'éclate de rire. Vous avez raison de vous moquer, old chap, mais je sais plus long que le commencement. En ce temps-là, les bouches de la renommée apprenez à tous les propres ariens qui sont des propres atouts de la machine ronde que l'or poussait en Alaska, comme le blé, en juillet, dans les champs du Manitoba. Il n'y avait qu'à se baisser pour remplir ses poches. Un trappeur, du bout de son soulier, avait fait rouler une pépite grande comme un œuf de canne. Un autre, en creusant pour tendre un piège, avait mis à jour un filon et les imaginations de galoper. Le bassin du Yukon fut bientôt envahi par une foule d'apprentis richards. Je ne vous dirai pas ceux qui sont tombés en route, ceux qui ont fait en quelques jours des fortunes scandaleuses et qui les ont reperdues en quelques heures, ceux qui, plus malins, laissaient travailler les autres et les attendaient posément au retour dans les passes de White Horse et dans les bouches de Skagway. Ce fut une belle époque. J'en étais, moi, qui vous parle. Oui, j'en étais. Et Grégory redresse le torse fièrement, ce qui déplace sa jambe et lui arrache un cri. Mais déjà, il poursuit. Et les mains, que vous voyez là, ont aidé à brancher pas mal de mauvais garçons. Dame, il fallait faire la police soi-même. Le gouvernement, que Dieu garde, ne prétendait pas encore se mêler de nos affaires. À Rome, il faut agir comme les Romains. Ce que vous traduisez, je crois, dans votre langue, par « il faut hurler avec les loups ». Je hurlais donc ainsi que vous dites. Je travaillais, je gagnais de l'or que je reperdis. Je bus pas mal de gin et de whisky dans tous les saloons disséminés depuis la source du Yukon jusqu'à Porcupine. Si j'ai vu des choses étonnantes, étonnante est le mot, Tenez, et c'est pour cela que j'ai commencé mon histoire. La plus curieuse, assurément, est l'aventure de celui qui, étant venu pour chercher de l'or, n'en trouva pas et fit fortune tout de même. Hein? Ah, ça vous intéresse donc, mes histoires? Mon coussin ici, s'il vous plaît. Thanks. Un peu de whisky? Non? Alors, une part pour vous et une part pour moi. Grégory Land prend son temps, avale son alcool à petites gorgées, cligne de l'œil de mon côté, puis il continue. La chose est arrivée sur la Lewis River. 300 mineurs en furent les témoins qui pourraient attester que je vous dis la vérité et non des contes pour endormir les enfants. Patrick Packing, un Irlandais naturellement, était un bon géant roux, doux comme une petite fille qui aurait bu sa bouteille de whisky tous les jours, ou plutôt tous les soirs. C'est le soir que Patrick buvait. Mais il tenait confortablement la boisson et gardait son égale humeur. On l'estimait beaucoup dans notre camp, mais ce n'était pas un garçon qui avait de la chance. Il avait acheté pour $100 toute une colline. Il s'usait à l'ouvrage, peinant, piochant, minant, s'abîmant les yeux à chercher la plus petite parcelle d'or. Mais de l'or, pas ça, m'entendez-vous, pas ça, pas une once. À droite et à gauche, ses compagnons ramassaient de la paille comme ils voulaient. C'était à se cogner la tête contre le rocher. Patrick ne fit pas cette stupide chose, ce en quoi il agit raisonnablement. « Ça viendra, » répétait-il avec philosophie. Ça vint, en effet. Un après-midi, il avertit les camarades d'avoir à s'éloigner. Il voulait faire sauter une mine assez importante, assurant que certains indices lui révélaient avec certitude un filon. Il alluma sa mèche et vint se mettre à l'abri avec ses compagnons. La mine réussit à merveille, et lorsque la fumée se fut dissipée, la colline apparut comme coupée au couteau. Un trou béant s'offrait. On dégagea l'entrée, et Patrick et ses amis pénétrèrent dans une immense caverne. Mais dès qu'ils eurent fait quelques pas, ils reculèrent, épouvantés. Patrick, en bon Irlandais, se signa et revint affronter le péril. Il put se rendre compte alors qu'il se trouvait en présence d'un gigantesque mammouth. Yes, sir, un mammouth, un vrai mammouth, en chair, en peau, en poil, en os et en ivoire. Un de ces mammouths qui, à l'époque tertiaire ou quaternaire, furent les souverains du monde. Il était là, admirablement conservé, effrayant, monstrueux, splendide. Il avait de longs poils formant crinière sur le dos. Sous ses poils, on apercevait une bourre laineuse. Mais ce qu'il avait de magnifique, c'était ses défenses, des défenses énormes et contournées en spirale. Patrick les mesura. Elles avaient 3,42 mètres. Oui, 3,42 mètres, exactly. Jack London, que j'ai connu ici et qui était le meilleur compagnon de la terre, il est mort aujourd'hui et son âme est dans la paix du Seigneur. Jack London a raconté comment un certain Thomas Stevens, qui fut son hôte toute une soirée, avait tué le dernier mammouth. La chose s'était passée fort simplement. La bête avait écrasé les 7 petits chiots de la chaîne Clouche. Pour se venger, Thomas Stevens avait pourchassé l'animal, l'empêchant de boire, de manger, de dormir, et le faisant tourner en rond dans une vallée comme dans un cirque, pendant des jours et des nuits. Le mammouth était mort d'épuisement et de fatigue. Mais Jack London lui-même conseille à ses lecteurs de croire au récit de Thomas Stevens sur parole. Aux incrédules, il dit d'aller à la recherche du célèbre chasseur, qu'ils trouveront certainement entre le 53e degré de latitude nord et le pôle, à moins que ce ne soit sur la côte orientale de la Sibérie ou les confins les plus reculés du Labrador. Donc, le mammouth de Jack London, pour beaucoup, est un mythe. Mais ce qui était une réalité, c'était le mammouth de Patrick Packing. Chercher de l'or et trouver un animal d'avant le déluge, c'est une chose peu ordinaire. Les mineurs se moquaient de Patrick, lui demandant si c'était là les indices d'un certain filon. Patrick laissait dire. Il réfléchissait. Un matin, il confia son terrain et son mammouth à un camarade, puis il partit. Le camarade en profita pour faire payer $1 à ceux qui voulaient voir l'animal. Pour $2, on avait droit à l'un des poils. Tenez, regardez cette chaînette tressée. Ce sont des poils du mammouth de Patrick, en vérité. Les jours passaient après les jours. Enfin, Patrick revint. Ce fut un événement. Il était accompagné de véritables gentlemen, des vieux à lunettes qui discutaient en agitant leurs bras, qu'ils avaient fort courts. Ils se disputaient avec des mots latins. Ils parlaient de Protapyrus, ancêtre hypothétique, d'Hippotapyrus, grand-père des éléphants, et des artiodactyles. Un autre assurait qu'ils étaient en présence d'un spécimen unique de coérodonte, plus ou moins ancêtre et non moins hypothétique que le Protapyrus. Un grand maigre, qui avait l'air d'un porte-manteau en redingoté, certifiait que c'était un Proboscidea. Ce à quoi répliqua vertement un bon gros tout réjoui, traitant son cher confrère d'ignare, attendu que le Proboscidea n'avait, paraît-il, qu'une trompe rudimentaire. Ils échangèrent des propos aigre-doux et faillirent en venir aux mains. Il fallut s'interposer. Enfin, après avoir cité Polyg, Falconer, Gaudry, Brême, Améguigno, Cop, et parlé de Lombrifron, Ganesa, Isignis, Isudricus, Namadicus, Augustidens, Trigonocephalus, Meridonialis et Pentalophodon, et passé tour à tour de Java à l'Inde, de l'Inde à la Chine, de la Chine à l'Europe, après un crochet en Afrique, ces honorables gentlemen tombèrent d'accord pour déclarer qu'on se trouvait en présence du mastodonte americanus et mirificus de l'Amérique du Nord, contemporain de l'éléphas primigenius, lesquels vivaient, comme chacun sait, à l'époque quaternaire, à moins que ce ne soit dans le miocène supérieur, peut-être aussi dans le pliocène. Finalement, on sut que Patrick avait échangé son mammouth contre un chèque de $50 000. C'était un bon business. Aujourd'hui, le mammouth est au muséum et Patrick, avec ses $50 000, vit comme un homme heureux dans une ferme qu'il acheta dans le sud de l'Irlande. Et comme il faut une morale, conclut Gregory Land, en se versant une dernière rasade de whisky, je dirais donc qu'avec de la persévérance, on vient à bout de la plus mauvaise destinée. Freddy, mon ami, je vous souhaite de trouver un mammouth. Ce était le filon, ajouta-t-il en français. Chapitre 12. La vallée du Yukon. Ce jour-là, Gregory Land m'assura. Vous n'entendez rien à la géographie. Il est vrai que ce n'est pas une chose qui s'apprend dans les livres. Lorsque la nouvelle se répandit que l'on avait trouvé de l'or, au cœur même des solitudes glacées, au-dessus du 60e degré de latitude nord, ce fut une ruée. Des quatre coins du monde, les aventuriers accoururent pour tenter la chance. La fièvre de l'or les tenait si fort qu'ils en oubliaient les rigueurs impitoyables du Grand Nord. Les ports du Pacifique, de San Francisco à Vancouver, fournirent une bonne partie des premiers émigrants. Du Canada et de la Colombie-Britannique vinrent les autres. Ils remontaient la côte du Pacifique de Vancouver à Skagway, à travers le méandre des îles, sur des petits vapeurs trapus ou sur des embarcations à voile. Les uns et les autres eurent à affronter les terribles courants de Prince of Wales. Plusieurs se fracassèrent sur le granit des roches, traîtreusement tapis au fond des passes. Aujourd'hui, les passes ont été explorées. Les sondages ont permis d'éviter les fonds pernicieux, quoique, par les grandes marées, la traversée soit encore des plus périlleuses. Les hommes qui, en 1897, débarquèrent sur la plage boueuse de Dyea ou de Skagway, n'étaient pas au bout de leur peine. Quelques cabanes de bois groupées au pied de la Pink Mountain, un misérable ponton sur pilotis, tel était Skagway. Pour atteindre les terrains aurifères, la terre qui paye, selon l'expression pittoresque des premiers mineurs, il fallait franchir la redoutable White Pass. De Skagway à Whitehorse, il y a 111 milles par une route affreuse, surplombant l'abîme de 8 à 900 pieds. Aujourd'hui, une compagnie audacieuse a agrippé un chemin de fer sur les aiguilles et les arêtes des rochers de basalte. Par quel prodige, à la suite de quels efforts inouïs, la volonté de l'homme a-t-elle pu s'affirmer? Les centaines de cadavres des ouvriers que la Waipa s'engloutit pourraient seuls répondre. Les mineurs, pour franchir la passe, confiaient leur destinée soit aux traîneaux que les chiens tiraient le long du trail, soit à des embarcations légères qui devaient résister au tumulte des eaux, aux chutes des rapides, aux sournoiseries des brisants. La neige, les glaciers, les gouffres s'ouvrant tout à coup et avalant hommes, chiens et traîneaux, 40 degrés sous zéro, n'eurent pas raison de l'énergie de ces farouches pionniers qui avaient résolu d'arracher son secret à la terre mystérieuse. La folie du Klondike les soutenait. Nombreux furent ceux qui tombèrent, mais d'autres arrivaient qui réussirent leur aventureuse performance. Là où rien n'existait que la solitude vierge, sur les berges de ce Yukon, le plus important, le plus grand des fleuves nord-américains du Pacifique, se dressèrent des campements qui bientôt devinrent des villes. Une chose remarquable. Dès que la terre payante était découverte, les mineurs arrivaient, attirés par la lueur fauve de l'or comme par la lumière. Et avec eux, ces hommes amenaient toujours une ou deux dynamos. On posait des fils et les paysages du Grand Nord s'agrémentaient bientôt de poteaux qui sont comme le symbole de la puissance de l'homme. Télégraphe, téléphone, courant électrique, les fils se greffaient parallèles sur les croix de Saint-André, clouées au faîte des sapins à peine ébranchés. Le Yukon, qui en été a un débit formidable, plus de 25 000 mètres cubes à la seconde, est long de 3 300 km, de sa source jusqu'à l'embouchure de son bras principal, le Yukon formant un vaste delta. Il prend sa source au col qui porte le nom du géodésien français Perrier, à 1250 mètres d'altitude. Son bassin crève les frontières officielles de l'Alaska, empiète sur les territoires du Canada et couvre une étendue de plus d'un million de kilomètres carrés, deux fois la superficie de votre France. En hiver, par les grands froids, le fleuve est gelé, parfois à bloc, c'est-à-dire jusqu'au fond de son lit. En été, il est navigable jusqu'en amont de sa jonction avec la Lewis River, c'est-à-dire sur plus de 3000 km. Les mineurs bloqués à Dawson attendent avec impatience l'époque de la débâcle qui leur permet d'espérer la venue des bateaux de ravitaillement. C'est un spectacle féerique dans le mystère de ces contrées silencieuses, que celui du craquement monstrueux qui annonce le dégel. Sous la rude poussée du fleuve, la glace casse, les blocs se heurtent, s'entrechoquent et se précipitent. On dirait un combat de monstres antédiluviens. Au lac Labarge, la sensation est grandiose. C'est la ruée des blocs qui essayent de passer tous à la fois. Malheur à l'embarcation du pilote inhabile qui, impatient, s'est aventuré sur le fleuve avant que les temps soient révolus. Dès sa source, dans la région volcanique qu'il a à traverser, il forme de nombreux lacs qui sont d'anciens cratères. La pureté des eaux est telle que le passage s'y reflète comme dans un miroir. Ce fait a frappé les premiers pionniers. Aussi, les Mirror Lakes sont légion dans toute la vallée. Le Yukon descend les pentes rocheuses des monts Chilkoot. Ses eaux s'enfuient dans des couloirs sombres et tortueux, étranglées dans les immenses parois à pic des roches de basalte. Elles sautent de cascade en cascade, augmentées par les eaux des torrents issues des glaciers. Gregory Land prend sa respiration, puis il repart sur le ton d'un maître d'école. Il reçoit à droite et à gauche d'importants affluents. La Otalinqua, la Newberry, la Big Salmon River, la Pelly, la Lewis. Puis, en aval de la traversée des Rocheuses, la Stewart et la Procorpine, dont la vallée se profile parallèle à la rive de l'océan polaire. La Tanana, la Cooper River, la Koyukuk, qui vient des toundras. Là, il atteint 2500 mètres de large. On pourrait croire qu'il va se jeter dans la baie de Norton, dont il est séparé par une quarantaine de kilomètres. Mais non, il tourne brusquement vers le sud-ouest, puis vers l'ouest, remonte au nord, et se sépare enfin en plusieurs branches qui forment un delta. Les rives de ce delta changent constamment du fait de l'apport considérable d'alluvions, mais aussi et surtout du fait de l'érosion causée par les glaces. Les énormes blocs minent la rive, la mangent peu à peu et la font écrouler dans les flots. Parfois, l'embâcle tardant, il y a des conséquences inattendues. Les saumons ne peuvent remonter le cours des diverses branches du fleuve. Le frais ne peut se faire et les populations indigènes souffrent cruellement de la faim. Le postier boit une rasade et poursuit. Dawson, qui s'étend sur plus d'un kilomètre le long du Yukon, est aujourd'hui une ville importante. Ce n'est plus le camp des mineurs où certains hors-la-loi célèbres dans les annales de la cité imposaient autrefois sa volonté. Ses rues, numérotées, coupent à angle droit selon la mode américaine. 8 avenues. Dawson, qui, à l'époque héroïque, s'enorgueillissait de ses bars fameux, le Northern, l'Exchange, le Monte-Carlo, a maintenant des églises, des temples, un vaste bâtiment postal qui encombre la 3e avenue, des trottoirs en bois, et si la ville a perdu en pittoresque, certes, elle a gagné en sécurité. Encore quelques années, et le vieux Yukoner, chaussé de mocassins en peau de Wolverine, aux fourrures lépreuses, revêtu de l'indispensable overall en grosse toile imperméable, bleue ou kaki, retenu aux épaules par de courtes bretelles. Le vieux Yukoner, aux gants de cuir fourrés, serrés au-dessus du coude, ne sera plus qu'un souvenir. Et le soir, dans un hôtel confortable de la Cité de l'Or, devant un feu clair, les belles dames en quête de sensations ou les beaux messieurs neurasthéniques entendront conter les exploits légendaires de ceux qui ouvrirent, à force de courage, les portes mystérieuses de la terre de l'éternel silence. Gregory Land soupire. Et pour chasser ce tableau désolant, il s'offre un double martini cocktail. Chapitre 13. Push, chien d'Alaska. La chose avait été décidée dans un bar de Dawson, le Monte-Carlo, si vous voulez des précisions. C'était l'époque de la ruée de l'or, où chaque jour, à Skagway ou Dyea, débarquaient de joyeux garçons qui, sans plus attendre, remontaient le Yukon afin de prendre la chance. Les uns les plus riches s'achetaient un team, c'est-à-dire un équipage de chiens et un traîneau. Les autres, c'était le cas pour la plupart d'entre eux, chargeaient leurs maigres bagages sur leur dos et se mettaient en route. Les capitalistes n'avaient pas réalisé alors cette chose follement aventureuse, accrocher un chemin de fer sur le granit des rochers à pic. Combien de compagnons sont restés dans les gorges de la White Pass? Combien ont fini là leurs rêves de richesse? La terre du silence garde son secret. Mais ce n'est pas là l'histoire. Il importe peu de philosopher. Sachez seulement que ceux qui essayèrent de franchir la passe et réussir cette performance étaient de rudes hommes. Hans Troemsen était de ceux-là. C'était un bon géant blond de Scandinavie, silencieux et grave. Pêcheur, il avait abandonné sa barque pour courir sa vie à travers le Canada et la Colombie-Britannique. À Vancouver, il avait entendu parler des découvertes des champs d'or de Fairbanks et de la Tanana. C'était, si mes souvenirs sont exacts, vers 1902 ou 1903. Hans Troersem s'embarqua sur un des vapeurs qui, à travers les méandres des îles, faisait le trafic sur la côte du Pacifique entre Vancouver et Skagway. C'était un garçon économe. Il put acheter un team de 6 chiens, des bêtes du Labrador magnifiques, pas trop usées, mais cependant habituées aux trails. Il les choisit en connaisseur. De Skagway à Whitehorse, il y a 111 milles par l'affreuse route que vous savez, surplombant l'abîme de 8 à 900 pieds. À 15 milles à l'heure, le team allait allègrement. Hans excitant ses bêtes de la voix dans un anglais un peu rauque. Les chiens tiraient, l'ongle dur griffant la glace, le cou en avant. Je dois vous dire que le thermomètre marquait 38 degrés sous zéro. N'importe, homme et bête allaient. Le sleigh, glissant sur ses patins de cuivre, semblait voler. Lorsque, tout à coup, un craquement se fit entendre. Un vieux Yukoner, habitué de la passe, aurait pris garde à cet avertissement. Hans Troemsen, pas. Il supputait ses bénéfices, les yeux perdus dans le lointain. Et ce qui devait arriver arriva. Un bloc de glace, rongé par quel monstre invisible, se détacha, qui s'abattit sur le team. 5 chiens furent écrasés du coup. Hans, que la commotion avait rejeté contre une roche, gisait, la tête ouverte. Ces blessures-là, quand on ne meurt pas sur le coup, sont sans importance. Le Scandinave avait le crâne dur. Lorsqu'il revint à lui, ses yeux rencontrèrent les bons yeux clairs du Wheeler, le chien de queue, qui, n'ayant pas de mal, léchait à petits coups de langue le sang qui coulait de la blessure de son maître. C'est de cette heure que data l'amitié de l'homme et de la bête. Hans Troensem était heureux dans sa malchance. Il eut la bonne fortune d'être rencontré par le Mailstage qui le rapatria. Le soir même, l'homme et le chien étaient à Dawson. Le pionnier, qui avait perdu tout son bagage, Seule sa ceinture de cuir qu'il portait sur la peau lui restait, et la ceinture contenait encore quelques beaux dollars. J'en viens maintenant à l'histoire. Donc, ainsi que je vous le disais, la chose avait été décidée dans un des bars de Dawson, le Monte-Carlo. Il ne faut pas vous imaginer que la Dawson de 1902 était semblable à la ville d'aujourd'hui, mais combien plus pittoresque. Naturellement, nous avions eu des bars avant d'avoir une église. Nous avions le Bank, l'Exchange, le Northern, le Savoy et surtout le Monte-Carlo, où, pour $1, nous avions le droit de goûter les charmes de la valse entre les bras d'une dancing girl. $1, yes, sir, pour une valse. Il est vrai que l'on donnait $2 pour un cocktail. Bah, la terre payait, et la poudre d'or semblait ruisseler entre nos doigts comme l'eau des sluice box. Heureux temps tout de même. Les souvenirs m'emportent, excusez-moi. Or, un soir, au Monte-Carlo, nous vîmes entrer Hans Troemsen, suivi de son inséparable chien, Poche. L'entrée du bon géant fit sensation. En effet, jamais le Scandinave ne franchissait le seuil du cabaret. Il était accompagné par Ralph Harrison, un mauvais garçon, franc buveur et coureur de filles. Jésus est le mauvais larron, fit à voix haute James Bilt. On rit. Ralph dédaigna l'insulte. Les deux compagnons s'assirent à une table écartée. L'orchestre mécanique attaquait une polka. On dansa sans plus prendre garde aux deux hommes. Tandis que nous dansions, un marché était conclu. Hans Troemsen achetait sur la chance, c'est-à-dire sans autres informations que la parole du vendeur, un cric à 20 jours de marche de Dawson, à 20 jours de marche de Dawson sur la Datkina. On avait trouvé par là de la paye, en quantité, et les terrains s'enlevaient à coups de dollars. Au moment de régler, Hans, qui était un garçon pratique et méfiant, ne donna qu'un tiers de la somme, promettant le surplus sur place. Ralph fit bonne contenance, empocha les dollars et promit de conduire lui-même le nouveau propriétaire. On partirait le lendemain. Hans Troemsen sortit, Poche sur ses talons. Et Ralph, qui était le plus enragé gambler de la terre, entreprit une partie de faro avec quelques rushlers. À 111 d'or le point, Ralph, qui n'avait pas la chance, eut au fait d'être à sec. Le lendemain, néanmoins, il attela son team et partit avec Hans Troemsen, précédé de Push, qui jappait, libre, à la tête de la meute. 2 jours après, dans ce même Monte-Carlo, nous vîmes revenir Ralph Harrison. Il était seul et portait un énorme bandage autour de la tête. Son poignet droit était aussi serré dans un pansement. Il conta l'aventure. Hans Troemsen avait voulu conduire le team à l'Indienne. Peu accoutumé, le Scandinave n'avait pu, à un tournant, rassembler assez vivement les guides, et le team était tombé dans un ravin. Lui, Ralph Harrison, avait prévu la chute. Debout sur le tacu, il avait sauté juste à temps, cependant que chiens, hommes et traîneaux se fracassaient dans le gouffre. Ralph avait la tête un peu cassée, mais solide. Un team qui rentrait à Dawson l'avait heureusement reconduit vers la ville. Ces sortes d'accidents étaient quotidiens. Personne ne s'apitoya sur la triste fin de Hans et, comme Ralph payait une tournée générale, on le proclama le meilleur des garçons. Il avait le verre en main. Je le vois, tenez, comme si c'était hier. Il était accoudé sur le bois du comptoir et tenait son verre de la main gauche. Il regardait la liqueur à hauteur de son œil et riait, d'un rire qui découvrait une double rangée de dents blanches, des dents aiguës comme celles des loups. Il buvait et riait, et les filles le trouvaient beau, la tête un peu pâlie dans son maillot de linge. Il allait porter la santé lorsque quelque chose de hirsute se précipita. De la porte au comptoir, il y avait bien 15 pieds. Un seul bond et l'espace fut franchi. Les buveurs s'arrêtèrent. La chose, un chien hurlait à la mort devant Ralph. Quelqu'un dit « C'est Push ». « Push ? » ?»« Oui, Push, le chien du Norvégien. » Push, heureux d'être reconnu, arrêta son aboiement et remua la queue. Puis, il se livra à un étrange manège. Il allait de l'un à l'autre en gémissant. Des larmes voilaient véritablement ses regards. Arrêté devant Ralph, l'aboiement devenait rauque et furieux. Ralph fit bonne figure. Il voulut chasser le chien d'un coup de pied. Mais la bête s'élança, furieuse sur lui. James Bilt le retint au vol par le collier. Il apaisa Push d'une tape amicale et, s'avançant vers Harrison, il lui dit « C'est le chien de votre compagnon ?»« Oui. » Il n'était donc pas tombé dans le ravin. « Je ne sais, je croyais bien. Toutefois, oh !» D'un geste brusque, James Bilt venait d'enlever le pansement. La tête de Ralph apparut, nette, sans blessure. Se voyant démasqué, le bandit eut un geste vers sa ceinture. Il ne put l'achever. 20 points s'étaient abattus. 3 garçons partirent sur le champ, guidés par Push. Ils suivirent le trail jusqu'au Yukon. Là, la piste remontait vers le nord. À un jour de marche, ils reconnurent que le trail avait été abandonné pour une piste nouvelle. À 3 milles du point de départ, dans une gorge solitaire, Push poussa des gémissements insensés. Il grattait la terre durcie avec ses pattes. On déblaya la place et l'on trouva, d'abord, le cadavre des chiens, gelé à bloc, puis celui de Hans Tromsem, qui avait fini là sa carrière de chercheur d'or. Comme il portait entre les deux omoplates la trace nette d'une balle, les 3 compagnons revinrent. La justice d'alors ne s'embarrassait pas d'enquête ni de paperasse inutile. Pour le surplus, Ralph avouait. Il avait manqué à la loi du Nord. Il serait pendu. La chose devait arriver un jour ou l'autre à un garçon comme Ralph. La sentence ne l'émut pas. Il avait perdu, il paierait. On l'amena un peu hors de la ville, en face du Yukon. Là, il y avait un saule, véritablement confortable pour l'usage auquel on l'employait. Le prisonnier fut amené. Mais, comme James Bilt lisait la sentence, Push se précipita sur l'assassin de son maître et lui ouvrit la gorge d'un seul coup. Ce fut précis, rapide. Personne n'eut le temps d'intervenir. Mais, comme Ralph avait été condamné à être pendu, quoique mort, on le pendit tout de même, car la loi doit toujours suivre son cours. Il faut qu'il en soit ainsi pour toute chose.